Toute la culture, c'est sur le 99.1.
Caminando por la calle del César, de arriba abajo. De arriba abajo, caminando por la calle del César. De arriba abajo, al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando.
Bueno, bueno, un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo los trombones desafinados. Allá el maestro Calilla con el bajo. Es de clarinete. Los hermanos Benítez también están borrachos. Bueno, pero yo no podemos meter un trago. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Lo que pasa?
Sí.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha.
Thank you.
amigo, me divorcio.
Il était une fois...
Radio HDR.
Radio HDR.
Le mix des cultures.
De toutes les cultures.
Sur le 99.1 FM.
99.1 FM.
J'imagine que t'es prêt pour l'expérience.
Ni longtemps nous pas ensemble mais qui j'en a nous caoulé dans la mauvaise au la ouille d'où ma case a ben mêlé mais nous ga goûté pourtant balé va balé va
Il est 15h
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là toi?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire. On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Ce 19 septembre de 14h à 15h, au sein des locaux du labo Victor Hugo à Rouen, la métropole Rouen-Normandie ainsi que la radio HDR vous accueillent dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Lors de cette émission qui met en avant la mémoire collective autour de l'immigration sur le territoire de la métropole, nos invités sur ce plateau vont vous présenter leurs projets ainsi que leurs motivations pour transmettre les mémoires ou celles qu'ils ont pu récolter. Vous pourrez bien sûr écouter cette émission en podcast via nos plateformes.
Mémoire individuelle, mémoire collective, comment se transmettent ces histoires qui constituent finalement un patrimoine commun au sein de la cellule familiale, au sein d'une ville, d'un territoire, voire d'un pays plus largement? Comment d'une démarche personnelle on peut aller vers jusqu'à la constitution d'un patrimoine commun, jusqu'à faire en sorte que ces mémoires soient appropriées? Comment les transmettre? À qui? Pourquoi? Voilà les questions qui nous rassemblent aujourd'hui autour du plateau pour en discuter. Serge Tipa, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Ligné.
Bonjour.
Bonjour. Et Johan Younes Van Pratt.
Bonjour.
Bonjour. Nous entendrons aussi des témoignages en fait, de personnes que nous sommes allés rencontrer pour préparer cette émission. Voilà, c'est parti. More action.
Oh. HDR.
HDR. More excitement.
Le mix.
Mix.
More everything.
De toutes les cultures.
Serge Tipa, pourquoi est-ce qu'on décide un jour d'écrire son histoire?
Alors, d'abord, c'est une démarche un peu égoïste au départ, parce que c'est tout bêtement à cause du premier confinement. J'avais plein de temps devant moi et je me suis dit que pour occuper ce temps, bah, j'avais envie de plonger dans mes souvenirs. Et il s'est avéré que plonger dans ces souvenirs, ça a été plus facile que je croyais pour plusieurs raisons. D'abord parce que voilà, je viens de la Tunisie et c'est un pays dans lequel j'ai vécu 10 ans, les 10 premières années de ma vie. Ensuite, il y avait un patrimoine chez mes parents de photos, de documents assez importants. Et je me suis servi de tout ça pour coucher sur le papier un peu les souvenirs et les mettre en ordre. Et j'ai eu envie, effectivement, si, de rédiger quelque chose d'un peu construit pour transmettre à mes enfants et plus tard à mes petits-enfants, parce qu'eux sont complètement ignorants de cette histoire que j'ai pu vivre. Et c'est un monde qui n'existe plus, forcément. Et je voulais qu'il y ait une trace de ce monde. Voilà. Et en même temps, ça m'a donné aussi l'occasion de raconter un petit peu aussi mon arrivée en France et mon insertion plus ou moins facile dans la société française.
Alors on peut partir justement, essayer de rentrer un petit peu dans ce récit. Vous êtes d'origine tunisienne, vous êtes parti à
non,
quel
non,
âge?
Je ne suis pas du tout, je suis d'origine française.
D'accord.
Italien par mon père. Et
mais vous êtes né en Tunisie?
Voilà, ainsi que mon père et mon grand-père. Donc c'était toute une génération d'Italiens qui venaient de Sicile. On est tous nés en Tunisie et ma mère, paradoxalement, est française, mais elle est née à Alger. Donc c'est une histoire un peu compliquée. Mais mes parents se sont trouvés, ils se sont aimés et je suis là aujourd'hui pour ça. Et voilà, donc j'ai vécu, comme je vous disais, 10 ans en Tunisie, jusque ce qu'on pourrait appeler le CM1 maintenant. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir des copains, entre guillemets, arabes, des copains français, européens, voilà. Et j'ai plein de souvenirs que j'avais envie d'évoquer, quoi.
Et quand on s'engage dans un tel récit de sa propre vie, j'imagine qu'on se rend compte de ce qu'on a gardé en fait de cette histoire-là. Elle a beau être lointaine, sans doute beaucoup d'éléments en fait vous ont suivi, vous suivent encore au quotidien. Est-ce que ce travail de retour sur le passé, c'est douloureux? Ça se fait,
Se fait facilement? C'est douloureux, c'est émouvant parce que on est tous Notre enfance compte pour nous tous, je suppose, autour de ce plateau de façon très importante. Et ça peut être douloureux. C'est fait parce que la vie en Tunisie, c'était faite de séparation, parce que ma famille, peu à peu, est partie à quitter la Tunisie. Nous, on est partis dans les derniers, avec mes oncles, mes tantes, mes grands-parents qui sont partis avant nous. C'est fait aussi de beaucoup de joie, parce que je me rends compte maintenant, avec le recul, que j'étais entouré que des gens qui m'aimaient, quoi. Et c'est énorme. C'est vraiment, ça n'a pas de prix d'être aimé comme ça, de façon inconditionnelle par des gens de toute génération et de toute la famille. Ça n'a pas de prix, quoi. Et ça a un peu construit aussi l'adulte que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, à mon tour, j'ai essayé de transmettre à mes enfants cet amour inconditionnel. Vous direz, c'est normal hein, de transmettre l'amour à ses enfants. Mais bon, je pense que cette enfance tunisienne, quand même, m'a marqué quand même.
Voilà. Alors vous racontez dans cet ouvrage votre arrivée à Paris, à Orly, si je me souviens oui. bien. C'est un peu difficile, le ciel est gris, en tout c'est cas, ça, il n'est oui, pas oui, le même oui. qu'à Tunis.
Oui, nous sommes partis définitivement avec mes parents et mes frères dans une caravelle, je me rappelle, l'avion La Caravelle. Et c'était le 17 septembre 1967, donc ça fait 54 ans maintenant, mais je me rappelle comme c'était hier. Il y avait un soleil magnifique à Tunis, à l'aéroport. Et comme je vous ai dû vous le dire, quand on était arrivé à Orly, il y avait un crachin abominable. Et c'était... j'en revenais pas, quoi. J'avais jamais vu un temps pareil, gris, nuageux. Et en plus, on était hébergé chez ma tante qui habitait à Sévigny-sur-Orge, dans une banlieue horrible. Ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais nous, on habitait un immeuble pas mal, quand même, dans le centre de Tunis. Et se retrouver dans un petit appartement, un petit cagibi, même pour quelques mois, ça nous a paru quand même très difficile, quoi. Puis après, vous savez, l'innocence de l'enfance reprend le dessus. On pense à jouer, on pense à autre chose. Mais avec le recul, je me rends compte que pour mes parents, ça a dû être très, très difficile, ce changement.
Et comment êtes-vous arrivé en Normandie après ?
Bah, tout simplement parce que mon grand-père maternel habitait Canteleu. Et c'était le seul endroit où on pouvait aller. On n'avait que quelques valises et puis des meubles dans un garde-meubles. Et on est arrivé là-bas. C'était une solution provisoire. Vous savez, le provisoire, ça dure souvent un peu longtemps. Ça a duré presque un an dans son petit appartement à Canteleu. Et voilà, on est arrivé là-bas. Sinon, moi, je pensais qu'on irait tous vivre en Italie comme mon oncle et ma tante l'avaient fait, c'est-à-dire le frère et la sœur de mon père. Et puis, pour des raisons un peu obscures, on s'est retrouvés en France quand même. Alors, je ne regrette pas d'être en France, hein, mais j'ai toujours aussi la nostalgie de la Tunisie et un peu d'Italie quand même, parce que j'adore l'Italie. J'adore la langue italienne et ça manque aussi quelque part.
Et comment cette nostalgie fait-elle matière pour un tel récit, en particulier lorsqu'on souhaite le transmettre à ses enfants ? Parce qu'il faut le dire, pour l'instant, l'ouvrage que vous avez édité à l'occasion de ce travail n'est pas disponible au grand public. Il circule au sein de votre famille. Ouais. Quel a été le retour en fait, de vos enfants lorsqu'ils ont pu lire
cet
ouvrage ?
Mes enfants, ils ont été étonnés, ils ont été bouleversés, je crois aussi, quelque part. Et j'ai même un de mes frères qui pour l'instant, n'arrive pas à lire le récit jusqu'au bout. Alors, le principal adjectif qu'il m'a dit pour ne pas le lire, il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il a 4 ans de moins que moi. Il n'a pas tous ses souvenirs, si vous voulez. Et il m'en veut un peu de savoir tout ça. Mais je pense qu'il va le lire vraiment pas à pas, quoi. Mais en plus, c'est mon frère soi-disant le plus dur de la famille. Mais là-dessus, voilà, il a retrouvé un peu son âme d'enfant et il a du mal à poursuivre le récit jusqu'à son terme, quoi.
Et comment les souvenirs, justement, émergent-ils lorsqu'on travaille là-dessus ? Est-ce que c'est lorsqu'on regarde une photo ? C'est en travaillant seul dans son coin qu'on laisse revenir les choses ?
C'est un peu tout, c'est varié. C'est-à-dire que parfois, des mots, même un seul mot, quand je dis Tunisie, ça me fait penser à plein de choses, à plein d'images. Après, il y a la démarche dans les deux sens. C'est-à-dire avec une photo, il y a plein de souvenirs qui sortent. Et puis, j'ai eu la chance, comme je vous disais, d'avoir beaucoup de photos à ma disposition. Et sur des souvenirs un peu confus, je mets une photo devant mes yeux et là, ça se précise. Donc, c'est vraiment un aller-retour sans cesse entre la mémoire et la photo, quoi. Et voilà.
Et à cette occasion-là, on trie, on fait le ménage un peu dans ces souvenirs.
Oui, on fait le ménage. Mais là, j'ai pas trié. J'ai vraiment essayé de raconter tout ce dont je me rappelle, les bons moments comme les moins bons moments. C'est-à-dire, par exemple, avec un de mes frères, on se bagarrait beaucoup. Ça, c'est forcément, c'est partie de la vie. Hein. J'en parle dans mon récit. Bien sûr, j'ai aussi envie d'évoquer la plage, la mer, les baignades, parce qu'on partait quand même 3 mois l'été en vacances, parce qu'il faisait trop chaud pour mon père. J'ai appris que mon père ne travaillait pas l'après-midi. Les mois d'été, c'est trop difficile. Donc, il nous rejoignait au bord de la mer. Donc, c'était quand même des vacances de rêve. Des vacances de rêve.
Et est-ce que quand est-ce qu'on décide d'arrêter à une telle époque le récit, hein? Je crois que votre récit se termine au service militaire, si je me souviens bien. Ça. Pourquoi ne pas être allé plus loin? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui justifie finalement le fait d'arrêter son récit?
Parce que j'ai voulu distinguer l'enfance et puis après la jeunesse. Puis je pense que c'est une époque un peu bénie et on a envie peut-être de se préserver de la suite. Parce qu'après, bien sûr, la vie d'adulte arrive avec ses soucis, ses déchirements, ses problèmes. Et j'ai voulu exclusivement dans ce livre mettre l'accent, un petit peu égoïstement peut-être, mais sur les bons moments de la vie, quoi. J'ai voulu transmettre à mes enfants que du positif et pas les soucis d'adulte qu'on peut avoir après quand on se marie, quand on vit en couple, même si j'ai des bons, très bons moments. Mais je voulais que ça ne soit pas dans ce récit-là. Peut-être que ça fera un jour l'objet d'un autre livre, on verra. Mais là, j'ai vraiment arrêté l'époque bénie jusqu'à mon service militaire.
Et vous décidez d'imprimer quelques ouvrages pour que ceux-ci procèdent de la construction d'un patrimoine, d'une mémoire collective au sein de votre famille. Est-ce qu'à un moment donné, vous a quand même traversé l'esprit de dire peut-être que ça peut intéresser un public plus large?
Oui, ça m'a traversé l'esprit. Mais après, en même temps, j'ai eu cette démarche et je me suis je me suis dit, mais qui ça va intéresser, quoi? Qui ça peut intéresser, les souvenirs d'un gamin de Tunis? Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas allé au bout de ma démarche. Alors que dans ma famille, je sais que ça va les intéresser tous, quoi. Donc là, comme je vous avais dit l'autre jour, il y a un exemplaire pour chacun de mes enfants. Et voilà. Et puis, pour moi, et pour ma mère, et pour une tante qui m'est très proche aussi. C'est vraiment resté dans le cercle familial. Mais je n'exclus pas la possibilité d'un jour de l'éditer avec plus de tirages, parce que c'est un site internet sur lequel on peut effectivement reproduire de façon en plus grande quantité, quoi, le livre. Voilà.
Je me rappellerai toute ma vie, et ça, ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. C'était... on avait une place du village, ou si vous voulez, qui allait... Defrahonen, c'est un petit village au-dessus de mon village, il traversait pour aller au marché. Et il y avait une grande place, si vous voulez, ça fait à peu près la place Le Cahier. Là. Et là, il y avait les abattoirs qui stockaient leurs peaux de bêtes, quoi, vous savez, pour emmener à la tannerie. Et moi, je me rappelle, j'étais avec des petits camarades du village, on jouait, et tout à coup, je vois ma mère arriver avec un gros sac. Elle vient voir, elle m'appelle, elle me dit, tiens, viens, tu me suis. Je dis, on va où? Elle me dit, on va rejoindre ta grand-mère, là. Je dis, non, maman, je viens pas, moi, je reste au village, tu y vas, et moi, de toute façon, je peux aller chez ma tante. Elle m'a dit, non, de toute façon, tu viens, ta tante va me rejoindre aussi, tu viens. Mais non, j'ai dit, moi, je vais pas, je reste ici. Elle a insisté, après, il y avait un monsieur qui connaissait très bien ma mère. Il dit, mais laisse-le, s'il veut, même si ta tante, ta sœur ne peut pas le garder, moi je vais le garder. Elle lui dit, non, je l'amène, il faut qu'il aille voir ses cousins, tout ça. J'ai dit, mais je réfléchis, je dis, mais j'ai pas de cousins là-haut. J'ai dit, à part la femme et ma grand-mère, je l'ai vu qu'une fois, je dis, je connais pas sans d'autre. Et c'est là que ça m'a tiqué, mais j'ai pas voulu, vous savez, me fâcher avec ma mère, donc je l'ai suivi. Elle m'a attrapé par la main, je l'ai suivi, on a marché. Je dis, mais attends, c'est pas par là la route. Il me dit, t'occupe pas, tu me suis. On a suivi.
Nous écoutions à l'instant l'un des nombreux témoignages récoltés par la Fabrique des Savoirs. Il s'agissait de témoignages d'Abaouz Djem qui raconte les premiers temps et son départ en fait d'Algérie. Ce travail a fait l'objet donc s'inscrit dans le cadre d'une large collecte de mémoires qui a engagé la Fabrique des Savoirs, donc l'un des musées de la Réunion des musées métropolitains de la métropole Rhône-Normandie. Et nous sommes allés à la rencontre d'Anouk Chaperon qui a piloté et coordonné cette vaste collecte de mémoires.
Alors, la Fabrique des Savoirs, c'est un musée qui parle du patrimoine local du territoire albévien, mais aussi un centre d'archives patrimoniales et un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Nous avons des collections permanentes accessibles gratuitement toute l'année, environ 2 expositions temporaires par an sur des thématiques très variées, patrimoine naturel, industriel, archéologique. On participe tous les ans aux Journées européennes du patrimoine et du matrimoine. Nous avons mené une collecte de mémoires sur l'immigration, une collecte de témoignages audio auprès de volontaires. 14 personnes qui nous ont partagé leur histoire. C'est un projet qui est parti d'un constat que dans les collections du musée comme des archives, nous n'avions pas de source sur justement les trajets, les récits de vie des personnes immigrées qui se sont installées sur le territoire d'Elbeuf et de son agglomération. L'objectif initial, c'était de retracer la grande histoire à partir de récits individuels. Alors pour l'instant, ils ne sont pas accessibles librement. Déjà une question de protection du témoignage de ces personnes. Cependant, c'était de faire une source qui soit quand même publique et accessible. Donc si on vient aux archives patrimoniales de la Fabrique des Savoirs, on peut venir écouter tout ou partie des témoignages qu'on a restitué cette collecte de mémoire, et donc on avait mis à disposition des audioguides où on pouvait écouter des extraits. Pour certains, le voyage en lui-même constituait les 3/4 de l'interview, parce que c'était un véritable périple pour tous. En tout cas, il y a un vrai attachement au territoire albévien. La Yule Company, qui a travaillé avec nous, a proposé un spectacle qui mêlait danse, théâtre, chant, musique. On a eu d'excellents retours de la part du public qui ont permis découvrir notre démarche de collecte et le lieu et nos collections par la même occasion.
Inscrire votre propre témoignage dans une plus large collecte comme celle que la Fabrique des Savoirs a engagée, est-ce que c'est éventuellement un exercice qui vous aurait intéressé ? Parce que, autrement dit, est-ce que le fait d'avoir fait ça seul, dans votre coin, si je puis dire, ne vous a pas un peu frustré à un moment donné ?
Quand j'entends ce témoignage émouvant du monsieur là, qui partait avec sa mère, je me dis, oui, évidemment que mon témoignage, il irait peut-être plus de force mélangé à tant d'autres. Et au fond, on raconte tous la même histoire, le déracinement. Être immigré, c'est avant tout être déraciné. Qu'on ait 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, quand on perd sa patrie, on est déraciné. Et voilà, même si ça se passe bien ou relativement bien, et que ce soit en 1962 ou en 2021, c'est toujours aussi douloureux pour moi.
Johan Younes Van Praat, alors on change de territoire et aussi de mode de collecte, mais il s'agit aussi un petit peu d'une certaine forme de déracinement finalement que les gens vont en partie raconter dans le travail de collecte que vous êtes en train de mener. Vous avez, vous, été missionné pour récolter le témoignage d'habitants d'un quartier de Cléon et de Saint-Aubin-les-Elbeuf qui va disparaître dans le cadre d'un vaste plan de rénovation urbaine. Comment vous êtes-vous... Quelle méthode avez-vous adapté, et finalement est-ce que les gens se sont investis facilement dans ce travail-là ?
Bonjour, alors merci pour cet accueil. Pour rappeler un peu le contexte de ce projet, il s'agit d'un projet de rénovation urbaine entrepris par les villes de Cléon et de Saint-Aubin-les-Elbeuf, et qui ont donc fait le choix d'entreprendre un travail sur la mémoire des quartiers, plus précisément les quartiers Art, Fleur et Feugret. Alors ces dénominations ne parlent pas forcément aux habitants. Si je parle de Cléon Sud, je pense que ça parlera beaucoup plus à eux. Donc je leur fais l'honneur d'évoquer cette appellation qui leur est bien plus chère. Le dispositif d'enquête que j'ai déployé est en 3 volets, pour faire simplement. Une enquête par observation ethnographique dans un premier temps, une série d'entretiens par récit de vie, une quarantaine, assez long. Ça veut dire à peu près 60 heures d'entretien que il m'a fallu retranscrire. Et également l'exploitation de certaines archives. Et là, je pense, effectivement, je remercie la participation de la Fabrique des Savoirs, puisque j'ai pu consulter les archives du bulletin intercommunal de la Tribune des Deux Rives, qui a existé donc de 79 à 93 et qui est un témoin précieux de certains événements et de nombreuses anecdotes. Et donc la spécificité de cette demande, comme vous l'avez souligné, c'est de recourir à une approche scientifique. Et ce n'est pas rien. Pourquoi ? Parce que bon, c'est l'assurance peut-être, je pense, d'une qualité, une plus-value sur le plan qualitatif. Mais aussi, ça témoigne d'une double volonté de la part de ces acteurs institutionnels. Premièrement, c'est de laisser une trace aussi fidèle que possible de la réalité des expériences vécues par ces Cléonais et ces Saint-Aubinois. Mais aussi, je pense et j'espère fortement, une volonté de comprendre ce qui se joue à travers cette rénovation. Et à mon sens, il y a un certain nombre d'enjeux qu'il convient de souligner lorsqu'on parle de mémoire, justement.
Alors vous parlez de compréhension mutuelle, c'est-à-dire ce à quoi peut conduire en fait un tel travail. C'est-à-dire, l'idée, c'est que chacun puisse écouter le point de vue de l'autre au sein déjà du quartier sur finalement comment est-ce qu'il perçoit aujourd'hui ce quartier, comment y a-t-il vécu. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il s'agit aussi d'œuvrer à une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de ce quartier et des processus, des impacts du renouvellement urbain chez un public plus large. Je rappelle d'ailleurs aussi, je précise que vous êtes sociologue et anthropologue, et ce qui justifie aussi la nature scientifique de ce travail-là.
Alors tout à fait, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. En quoi c'est une question sensible de parler de mémoire dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain et de rénovation urbaine? Premièrement, c'est parce que, faut le dire aussi, la mémoire, puisqu'il est question de mémoire ici, peu d'histoire finalement, la mémoire n'est pas l'histoire. L'histoire a un objectif de connaissance, la mémoire a un objectif très très variable, thérapeutique, mais en tout cas qui est beaucoup plus sélectif. Et donc il faut bien distinguer les deux registres. Moi je ne fais pas l'histoire, mais je fais la sociologie de la mémoire. Et on sait que la mémoire a cette tendance inévitable à s'ancrer dans des lieux, et notamment dans les habitats. Donc quand on vient affecter et transformer profondément les habitats, en fait on est en train de toucher au support privilégié de fixation de cette mémoire collective. Donc c'est sensible. Le deuxième point, c'est que la mémoire, il serait plus correct de parler des mémoires. Et qui dit des mémoires, dit aussi hiérarchisation des mémoires. Et en ce sens, on a une mémoire officielle, mémoire institutionnalisée par exemple, et on a des mémoires qui sont plus singulières, qui du coup expriment une quête de reconnaissance. Mais, comme il a été dit par de nombreux chercheurs, l'intérêt des uns ne fait pas toujours l'intérêt des autres, et la nostalgie des uns à évoquer certaines facettes d'une vie communale peut susciter la gêne, le rejet ou l'exécration d'une autre partie. Et en ce sens, je pense que le fait de restituer ces mémoires, c'est aussi un révélateur des fractures sociales, des fractures ethniques qui peuvent traverser la société dans son ensemble ou une commune en particulier.
J'imagine qu'il est évidemment difficile de synthétiser l'ensemble de ces dizaines d'heures de récits que vous avez écoutés. Malgré tout, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de l'histoire de ce quartier? Est-ce qu'il y aurait des tendances, des communautés finalement qui auraient marqué l'histoire de ce quartier, des Feugrés en particulier?
Alors justement, on va essayer d'être synthétique. Comme vous le dites, c'est un corpus de plus de 60 heures d'entretien. Bien sûr que le cas de Cléon, a fortiori, et de Saint-Aubin également, est étroitement lié à l'histoire de l'apparition de la régie Renault en 58. Pour vous donner une idée, ces quartiers vont être principalement construits, en tout cas leur habitat construit pour accueillir ces employés, ces ouvriers issus de la régie Renault. En l'espace de 40 ans, on va voir la population passer de 700 à 6000 habitants. Donc on passe d'un village à une ville, une cité ouvrière, etc. Puis cette histoire du monde ouvrier étroitement liée à Renault va être mêlée à l'histoire des migrations, sénégalaises pour la plupart. Et puis ensuite, ça va devenir le schéma typique des grands ensembles que l'on connaît, avec cette classification en termes de priorité des politiques de la ville, etc. Et moi, à mon sens, c'est pour ça que c'est important peut-être de ne pas réduire Cléon notamment à Renault. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de Cléonais qui travaillent à Renault. Donc, Cléon n'est plus Renault. Combien même ce serait sur le même territoire. Et donc, il faut être attentif à la richesse et à la diversité des expériences vécues. Et moi, en tant que chercheur, mais en tant qu'individu, j'ai une dette morale. Parce que quand ils viennent me confier leurs souvenirs, leur nostalgie, leurs bons moments, ce qu'est Cléon pour eux ou ce qu'est Saint-Aubin pour eux, eh bien, en tout cas, leurs quartiers qui sont concernés par le plan de renouvellement urbain, ils espèrent que ils vont pouvoir contribuer à une mosaïque de souvenirs qu'on m'a chargé d'élaborer actuellement. Quoi.
Et qu'est-ce qui ressortira? Enfin, comment est-ce qu'on pourra consulter le fruit de ce travail? Est-ce qu'il est prévu de produire des ouvrages, une exposition, des choses qui pourraient permettre au public de découvrir ça?
Alors actuellement, effectivement, il y a déjà une exposition consultable à la médiathèque Place Saint-Roch à Cléon.